La science peut-elle avoir raison de toutes nos croyances? Partie 3 de la dissertation. Pour faire le bilan de la deuxième partie, il s'agissait de montrer que les croyances persistaient face au progrès de la science pour des raisons qui peuvent être des raisons psychologiques, des raisons économiques également. Autrement dit, face à la raison scientifique, peuvent s'opposer des intérêts, des affects. On a vu la référence centrale qui était la référence à Spinoza, l'affect fondamental qui explique la persistance de croyances, notamment les croyances irrationnelles nommées superstitions, c'est la crainte. Et cette crainte, elle est liée à la condition qui est la condition de tout être humain, à savoir l'incertitude vis-à-vis de l'avenir. Cette condition humaine, elle est absolument nécessaire, on ne peut pas échapper à cette incertitude, et par conséquent, il est fortement probable qu'on ne puisse pas non plus échapper entièrement aux croyances irrationnelles, et ceci est un obstacle lié à la force des croyances, donc obstacle à la science irréductible. Mais dans cette dernière partie, il s'agira de voir si l'obstacle à la science ne vient pas en quelque sorte de l'intérieur. Autrement dit, il s'agira de voir si la science n'est pas, par définition, par essence, limitée à certains domaines où, en effet, elle peut conquérir la vérité, mais tout à fait impuissante dans d'autres domaines. Et c'est l'objet de cette partie que j'ai intitulée Finalement, la science a certainement aussi des limites intrinsèques qui l'empêchent d'avoir raison de toutes les croyances. Le premier argument, il consiste à mettre en évidence les conflits récurrents, ou en tout cas historiques, qui ont pu exister entre la science et la croyance, notamment entre la science et la religion. En effet, la plupart des grandes religions sont anciennes. Elles ont été développées pour le bouddhisme ou pour le judaïsme, le christianisme, etc., il y a plusieurs millénaires. On peut également penser et prendre plus facilement pour exemple la mythologie des Grecs et des Romains qui avaient les mêmes fonctions que les religions actuelles, à savoir répondre à un certain nombre de questions, de mystères, de questions métaphysiques sur, par exemple, la création du monde, l'existence de l'âme et du coup aussi l'immortalité éventuelle de cette âme. Mais si on se réfère aux religions de l'Antiquité, elles avaient aussi pour fonction d'expliquer tout un tas de phénomènes qui étaient des phénomènes du monde physique. Par exemple, les orages seraient la volonté de Zeus en colère, ou le vent, la volonté du dieu Éole. Évidemment, aujourd'hui, ce type de croyance est totalement abandonné puisque les progrès ont été réalisés dans le domaine de la science physique et plus particulièrement de la météorologie. Mais sur des sujets métaphysiques plus fondamentaux, notamment sur la question de la création du monde, on a pu aussi voir apparaître un conflit entre les explications de l'existence du monde par la création divine et les théories physiques, par exemple celles du Big Bang. De même, sur la question de l'existence des créatures, des êtres vivants, des êtres humains, etc., etc., on a vu apparaître une concurrence entre, par exemple, les récits bibliques faisant de Dieu l'unique créateur de l'ensemble des espèces à un instant T, ce qu'on appelle la création instantanée, concurrence avec les nouvelles théories en biologie, comme le darwinisme, qui est fait aujourd'hui l'objet d'un consensus scientifique concernant l'évolution des espèces, leur apparition, leur disparition, leur transformation, etc. C'est justement l'exemple que je prends en exemple 2, dans le deuxième argument, exemple de la concurrence entre le darwinisme scientifique et le créationnisme religieux, ou de la concurrence entre la théorie du Big Bang et le créationnisme. Je pense aussi également aux tentatives de preuve rationnelle de l'existence de Dieu. On peut ici se référer à Descartes, puisque dans les méditations métaphysiques, après avoir découvert la première vérité qui est mon existence en tant qu'esprit puisque je suis en train de douter de tout, eh bien, il faut bien qu'il y a quelque chose qui doute, et cette chose qui doute, eh bien, c'est moi en tant qu'esprit. Donc, à partir de cette première vérité, la deuxième vérité que va prouver, entre guillemets, Descartes, c'est l'existence de Dieu. Donc ici, il ne se réfère absolument pas à un texte religieux, mais essaye de fonder de manière parfaitement rationnelle cette idée métaphysique de l'existence d'un Dieu créateur. Donc on voit que quand la science et la religion sont en conflit, c'est qu'en fait, elles prétendent apporter des réponses sur les mêmes questions, et notamment sur des questions qui relèvent du domaine de la métaphysique pour la science ou pour la philosophie, ou sur des questions qui relèvent de la physique pour la religion. Ainsi, on peut poser le problème de savoir si la science est légitime à apporter des réponses dans le domaine métaphysique, et si inversement, la religion est légitime à apporter des réponses dans le domaine de la physique. Ce sera tout l'objet de la référence centrale de cette partie, à savoir la référence à Kant. Mais avant cela, j'ai ajouté un troisième argument sur la question qui est la question politique. Car historiquement, la religion n'a jamais eu uniquement pour rôle de répondre aux questions existentielles ou métaphysiques de l'être humain. Elle a aussi eu un rôle politique absolument central pendant des millénaires et encore aujourd'hui dans beaucoup de pays du monde. Comme l'avait en effet démontré Durkheim dans le texte sur la religion que je vous avais proposé dans le cadre des explications de texte sur la religion a un fort pouvoir fédérateur pour une communauté. Or, une communauté politique a besoin de cet élément unificateur qui va tourner autour des valeurs, aussi des règles morales partagées par l'ensemble du groupe. Et ce qui définit une religion, c'est évidemment un ensemble de croyances, mais aussi un ensemble de règles morales et un ensemble de valeurs qui peuvent être partagées par une communauté. D'où son intérêt en politique qui a toujours été confirmé au cours de l'histoire. Et c'est là qu'a pu apparaître un conflit supplémentaire entre science et religion. C'est-à-dire qu'en remettant en cause certaines idées, certains dogmes, certaines croyances religieuses avec le progrès de la connaissance, notamment physique, la science a pu apparaître comme un danger politique à certaines périodes de l'histoire. On peut évidemment penser à l'époque de la révolution copernicienne, où les scientifiques étaient traînés devant les tribunaux religieux qu'on appelle l'Inquisition et devaient se défendre d'une accusation d'impiété qu'on leur faisait. Ainsi, je vous renvoie aux exemples assez connus du procès de Galilée et je vous invite aussi également à vous référer à l'œuvre cinématographique qui s'appelle Agora, un film d'Alejandro Amenábar, qui porte sur un personnage d'une scientifique de l'Antiquité mise à mort dans le contexte d'une prise de pouvoir par les chrétiens à Alexandrie. Aussi, après avoir mis en évidence le contexte de ces conflits récurrents entre science et religion, j'en viens donc à la référence à Kant, qui en effet pose le problème de savoir si, lorsqu'il y a conflit entre science et religion, ce n'est pas parce que l'un et l'autre font ce qu'on appelle de l'abus de pouvoir, c'est-à-dire qu'ils prétendent apporter une vérité là où finalement ils ne le peuvent pas. Le but de Kant, c'est de montrer qu'il y a une limite pour la raison scientifique, qu'elle ne peut s'appliquer que dans le domaine limité de l'expérience, et qu'au-delà de ce domaine-là, eh bien, c'est la place des croyances. Et inversement, à partir du moment où on peut raisonnablement penser qu'on peut arriver à des vérités scientifiques parce qu'on peut faire les expériences qui les prouvent, à ce moment-là, eh bien, inversement, la religion n'a plus rien à dire. L'idée vraiment centrale, c'est de séparer vraiment nettement et clairement le domaine de la science et le domaine de la croyance. C'est la grande idée et la grande avancée de Kant en matière philosophique sur le sujet. Évidemment, par là, il va s'opposer au rationalisme de Descartes, qui pensait que la raison pouvait justement avoir raison de tout. Il va proposer, à la place de ce rationalisme dogmatique, un rationalisme qu'on va appeler un rationalisme critique. C'est-à-dire qu'il fait une critique de la raison, il délimite ses pouvoirs, il délimite le territoire dans lequel cette raison, elle peut s'appliquer. Nous allons donc passer à la lecture de ce texte fondamental de l'histoire de la philosophie qui est tiré de la préface à la critique de la raison pure de Kant. La raison humaine est soumise, dans une partie de ses connaissances, à cette condition singulière qu'elle ne peut éviter certaines questions et qu'elle en est accablée. Elles lui sont suggérées par sa nature même, mais elle ne saurait les résoudre parce qu'elle dépasse sa portée. Ce n'est pas sa faute si elle tombe dans cet embarras. Elle part de principes dont l'usage est inévitable dans le cours de l'expérience et auxquels cette même expérience donne une garantie suffisante. À l'aide de ces principes, elle s'élève toujours plus haut, comme l'y porte d'ailleurs sa nature, vers des causes plus éloignées. Alors, dans ce texte, rapidement, nous voyons que le personnage central, c'est la raison. Et cette raison, elle est dans une situation qui est une situation difficile, comme le montrent les expressions, est accablée, et aussi le terme embarras. Notre raison est donc bien embarrassée, elle est face à un problème. Et ce problème, ce que nous dit Kant, c'est qu'il est nécessaire. La raison, elle ne peut pas échapper à ce problème. La question est donc de définir clairement en quoi consiste ce problème, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Pour l'expliquer le plus simplement possible, je vais vous demander d'essayer de visualiser un enfant de votre entourage, et peut-être même vous-même, vers l'âge de 5, 6 ans, plutôt 5 ans d'ailleurs, au moment où a priori se développe ce qu'on appelle la pensée logique, à partir du moment où le petit enfant, il commence à pouvoir faire des raisonnements et il sort de la pensée magique. Eh bien, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'interroger sur les causes de toutes les choses qui l'entourent. Et il va poser cette question « Pourquoi ?» Et il va jouer avec cette question « Pourquoi ?» en demandant toujours à ses parents ou à des adultes « Ben, pourquoi il y a ceci ?» Et puis l'adulte va répondre « Ben, parce qu'il y a cela. » Et il va demander alors « Ben, parce que pourquoi il y a cela ?» Et ceci, progressivement, va généralement amener l'adulte dans l'embarras. L'exemple qu'on prend assez souvent, c'est l'exemple de l'œuf et de la poule. Pourquoi il y a un œuf? Ben parce qu'il y a une poule. Et pourquoi il y a une poule? Ah ben parce qu'il y a eu un œuf avant. Ah ben oui, mais pourquoi il y a un œuf? Ben parce qu'il y a une poule. Parfois, on va se retrouver comme ça dans une boucle où finalement, on ne va pas forcément réussir à expliquer ce qu'on appelle la cause première, la première cause des choses qui nous entourent. Et finalement, une façon qu'on pourrait adopter de répondre à la question de l'œuf et de la poule, c'est de dire « Ah ben, pourquoi il y a un œuf ? Ben parce qu'il y a une poule. Et pourquoi il y a une poule ? Ben parce qu'il y a un œuf. Et pourquoi il y a un œuf ? Parce qu'il y a une poule. Et pourquoi il y a une poule ? Ah ben parce que Dieu a créé les poules le cinquième ou le sixième jour. » en gros, on va répondre à la question de la cause première en utilisant le concept qui est le concept du Dieu créateur. Cet exemple de l'œuf et de la poule, en fait, c'est le même principe que la question fondamentale de l'existence du monde. Pourquoi le monde existe? Et quel est le rôle de la science? Ben, le rôle de la science, c'est de donner des explications de tous les phénomènes qui se passent dans le monde que nous voyons, que nous expérimentons. Et elle y réussit plutôt bien. On a vraiment réussi à élaborer un certain nombre de lois physiques qui nous permettent d'expliquer les mouvements des astres, d'expliquer le fonctionnement des êtres vivants, etc., etc. En gros, les sciences permettent de répondre à beaucoup de pourquoi. Mais, et c'est là que Kant va cerner le problème, elle ne peut le faire que lorsqu'elle dispose d'une expérience, lorsque ces phénomènes, ils se passent à l'intérieur du monde. Par contre, eh bien, elle est démunie quand il s'agit de dire pourquoi ce monde-là, où se passent tous ces phénomènes, eh bien, pourquoi ce monde-là existe. Et c'est là que Kant va poser la frontière. La science, elle peut énoncer des vérités sur ce qui se passe dans le monde physique grâce à des lois qui sont des lois explicatives de ce monde physique. Mais pour tout ce qui n'est pas expérimentable, pour tout ce qu'on ne voit pas, pour tout ce qui relève de l'immatériel également, eh bien, pour Kant, la science est impuissante. En tout cas, ce n'est plus de son ressort, ce n'est plus son domaine. Concrètement, on pourra dire avec Kant que la science et la raison ne peuvent pas prouver l'existence de Dieu, puisqu'il n'y a pas d'expérience possible permettant de donner une preuve objective de cette existence. Et quand je parle de preuve objective, c'est une preuve expérimentale. Inversement, évidemment, lorsque la religion se mêle d'affaires qui relèvent du monde sensible et expérimentable, elle risque d'être mise en difficulté par les découvertes scientifiques. La religion, tout comme la science, ne doit pas faire dans l'abus de pouvoir et s'immiscer dans le domaine réservé à la science expérimentale. Nous allons corriger rapidement le petit paragraphe de texte à trous d'explication de ce texte. C'est parti. Alors, Immanuel Kant fait ici la critique de la raison et de l'expérience humaine. Faire la critique, cela ne signifie pas déprécier ou dévaloriser, mais montrer quelles sont les limites de la raison et de l'expérience. L'objectif, c'est de mettre en évidence quelles sont par conséquent les frontières de la connaissance humaine. Le principe de causalité est par exemple un des principes innés de l'entendement humain. Grâce à lui, la raison explique les phénomènes qui ont lieu dans le monde. On remarque que le petit enfant qui découvre ce principe passe son temps à demander pourquoi, pourquoi, pourquoi. Notre esprit est en quelque sorte fait pour rechercher la cause des phénomènes. Déterminer la cause d'un phénomène, c'est l'expliquer, en donner la raison d'être. Mais ce principe a besoin de l'expérience pour s'appliquer. Ainsi, connaître, c'est appliquer les principes logiques de notre raison à la matière que nous donne l'expérience. Le problème, c'est que l'application de ce principe de causalité nous oblige à dépasser les limites de notre expérience sensible, qui se fait dans l'espace et dans le temps, et à nous poser la question de la cause première du monde qui nous entoure. C'est ainsi qu'apparaît l'idée de Dieu. Sauf qu'il s'agit d'une idée que produit la raison, mais qui ne correspond à aucune expérience sensible. La raison ne peut pas s'empêcher de penser Dieu, mais elle est incapable de le connaître. Elle peut produire sur lui de la croyance, mais pas un savoir fondé sur l'expérience. La science a donc des limites. Il ne peut y avoir de science que de ce dont on a l'expérience. Mais notre nature nous pousse au-delà de l'expérience. Nous cherchons à en savoir plus sur les dessous ou les coulisses de notre monde. C'est ce qui pousse tous les êtres humains à se poser des questions sur Dieu, sur l'âme et sa possible immortalité, sur la nature du monde. Ce sont des questions métaphysiques. Mais sur ces questions qui dépassent notre capacité à savoir, nous ne pouvons que croire que Dieu existe ou pas, qu'il y ait une vie après la mort ou pas, ou nous abstenir de croire, agnosticisme, suspension de l'assentiment. Il y a un domaine pour la croyance, et il y a un domaine pour le savoir. Croyance et savoir ne s'opposent donc que lorsque l'un tente d'empiéter sur le domaine de l'autre. Bien, donc, j'espère que cette explication de ce texte vraiment important de Kant a été assez claire. L'idée, c'est que la science ne peut pas avoir raison de toutes nos croyances, qu'elle peut, par contre, évidemment, prétendre à connaître tout ce qui est en son pouvoir, à savoir tout ce qui correspond au domaine de l'expérimentable. Et là, en effet, elle peut venir à bout de toutes les croyances qui se substituent à une explication scientifique du monde des phénomènes expérimentables. Mais elle ne peut pas prétendre à aller plus loin. Il y a ainsi une place pour la croyance et une place pour la science. Chacune d'entre elles devant pour Kant rester à sa place.